On voit aujourd'hui de jeunes marketeurs très très focalisés sur les canaux, qui ont l'impression que le marketing c'est devenu TikTok et Instagram. Les canaux ont toujours existé, vont continuer à exister, vont continuer à se développer, mais ce qui est important, c'est les fondamentaux autour des 4 P, un produit, une distribution, un prix et une promotion. On ne peut pas tourner autour.
Bienvenue à notre podcast Marketing Coffee Talk, une série de podcasts animés par Fleur Parnet, la toute nouvelle CEO de BAM. Dans chaque épisode, elle s'entretient avec un lauréat des Belgian Marketing Awards 2023.
Chaque année, en automne, les associations belges de marketing et de communication récompensent les marques et les marketeers les plus performants et les plus influents au cours des Belgian Marketing Awards. Dans la catégorie Marketing Leadership of the Year, la première place a été attribuée à José Fernandez, Chief Marketing Officer de Dieteren Automotive. Auparavant, il a travaillé dans le secteur alimentaire et aussi pour des agences telles que Actito, Digitas et Dentsu. Aujourd'hui, il se concentre essentiellement sur les mécanismes technologiques qui sous-tendent le marketing sans pour autant perdre de vue la vision d'ensemble. Nous parlons de son rôle et de sa vision de la profession. Bienvenue José, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce Marketing Coffee Talk.
Bonjour Fleur et merci pour votre invitation.
Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs ?
Alors très rapidement, je m'appelle José Fernandez, j'ai 55 ans, 56 dans un petit mois. Je suis marié, j'ai deux enfants, je suis diplômé en tant qu'ingénieur commercial de l'ICHEC à Bruxelles et je suis un passionné de technologie, de marketing et assez sportif aussi à mes heures perdues.
Parfait. Alors en guise de première question, je demande à tous mes invités ce que signifie le marketing pour eux et pour leur entreprise.
Alors pour moi, le marketing, c'est deux éléments importants. Le premier, c'est l'influence sur la culture populaire. Comment est-ce qu'on peut, à travers les campagnes marketing, à travers nos produits, nos services, influencer les comportements des consommateurs? Ça, c'est le premier rôle pour moi du marketing. Et le deuxième, c'est effectivement, c'est dans le mot, c'est la notion de marché, c'est-à-dire de rassembler ou de rapprocher les produits et les services de leurs clients à travers un ensemble de techniques et de messages qui permettent effectivement de rendre concrets les produits et services dans la vie quotidienne des clients que nous servons tous les jours.
Parlons un petit peu de données. Donc, quelle est l'importance des données pour l'équipe marketing d'une entreprise comme Dieteren?
Alors, pour une entreprise comme Dieteren, mais pour toutes les entreprises, je pense, les données sont devenues aujourd'hui le Saint Graal. C'est-à-dire qu'aucun marketeur sensé, moderne et branché, je dirais, sur l'écosystème qui existe aujourd'hui, ne mettrait les données au centre du jeu. À mon sens, le marketing, c'est vraiment un triangle qui lie des audiences, c'est-à-dire des audiences de clients avec les médias qui leur correspondent, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir atteindre ces audiences, des contenus. Ces contenus, ils sont généralement créatifs. Ils permettent de diffuser un certain nombre d'éléments, d'informations ou d'engagement vis-à-vis des produits et services que nous commercialisons. Et puis, le troisième élément, effectivement, c'est cette notion de données qui provient en fait de tout cet échange entre les médias, le consommateur, données qui vont évoluer de plus en plus vers des données en first party, c'est-à-dire qui sont les données propres du client. Et pour moi, c'est devenu un enjeu majeur. Aujourd'hui, dans mes projets stratégiques, il y en a un qui est tout en haut de la pile, qui consiste à unifier nos écosystèmes de données pour permettre d'améliorer l'expérience client et de créer du cross et upselling à travers les 27 produits qui sont constitutifs de notre portefeuille de produits et services chez Dieteren.
Alors, c'était justement ma prochaine question en parlant de liens et d'écosystèmes. Quelles mesures est-ce que vous avez prises du coup chez Dieteren pour cartographier éventuellement ce parcours client ?
Alors aujourd'hui, on a effectivement une équipe Customer Experience qui est totalement dédiée d'une part à la mesure de la satisfaction client, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que nous disent nos clients aujourd'hui sur leur expérience client. On a mis en place à travers l'ensemble de nos filiales un outil qui s'appelle Medallia, qui nous permet de remonter des données, de mesurer le NPS sur l'ensemble de nos services et produits. Et cela nous permet de nourrir justement le parcours client qui a été effectivement cartographié. Dans l'automobile, c'est un parcours un peu particulier parce qu'il est extrêmement atomisé entre de nombreux acteurs, entre le moment où on produit la voiture ce qui n'est pas le métier de Dieteren, le moment où ce véhicule arrive sur le marché belge, ce qui est notre métier, on importe les véhicules, on les distribue, donc ça passe entre les mains d'un secteur de distribution, un réseau de distribution qui, pour une part, nous appartient en propre, mais pour une autre partie, ce sont des indépendants. Et donc, en fait, le client, lui, il a une relation univoque avec une marque, un produit, une voiture. Mais en fait, tout au long du parcours, il y a différents intervenants qui partagent ou pas des données entre elles. Et ça, c'est vraiment un challenge pour notre industrie en particulier.
Alors, tu dis à quel point, effectivement, les données sont stratégiques et à quel point vous les avez mis en haut de votre liste. Petit cours de marketing, quel conseil tu pourrais donner éventuellement à d'autres annonceurs sur ce sujet ou dans ce domaine ?
Alors, pour la petite histoire, Fleur, j'ai effectivement eu l'occasion d'enseigner le marketing pendant 5 années à l'ICHEC, marketing digital plutôt. Mais si je devais donner un conseil effectivement à mes collègues, et c'est plus un conseil qu'un cours, je pense qu'à la base, il ne faut pas perdre les fondamentaux de base. Moi, j'ai un peu des cheveux gris, mais ce que nous disait notre ami Kotler il y a déjà un certain nombre d'années reste toujours très, très fort d'actualité. On voit aujourd'hui de jeunes marketeurs très, très focalisés sur les canaux, qui ont l'impression que le marketing, c'est devenu TikTok et Instagram. Mmh. Les canaux ont toujours existé, vont continuer à exister, vont continuer à se développer. Mais ce qui est important, c'est les fondamentaux autour des 4 P de Kotler, si on doit les reprendre. Et donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais à mes collègues qui nous écoutent dans ce podcast, c'est n'oubliez pas la base, un produit, une distribution, un prix et une promotion. Ou une communication autour de ce produit, on ne peut pas tourner autour. Et malheureusement, on voit aujourd'hui des produits et services se développer très, très fortement avec cet ancrage sur les aspects de communication, en oubliant les autres éléments. Parfois, ils se prennent le mur.
Merci pour ce rappel. C'est bien de remettre la base de temps en temps. Et alors, pourquoi est-ce que tu as décidé avec ton équipe de créer ta propre agence média ?
Alors ici, je voudrais préciser un élément. Nous n'avons pas vraiment créé une agence média. Nous avons toujours une agence média, Space, que je remercie d'ailleurs pour leur engagement quotidien auprès de nos équipes. En fait, nous avons internalisé une partie des expertises médias, en particulier les expertises de planning et digital. Nous les avons internalisées. Nous avons créé en fait un écosystème un peu hybride, c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec notre agence média. D'ailleurs, ils sont dans nos bureaux plusieurs jours par semaine aux côtés de nos équipes. Mais la partie stratégique, la partie digitale et la partie data, désormais, nous la gérons nous-mêmes en direct. Et la raison pour laquelle on a fait ça, bon, moi j'ai travaillé en agence pendant un certain nombre d'années, en agence digitale, mais aussi en agence média, c'est que la manière dont fonctionnent aujourd'hui les agences médias les oblige évidemment à mutualiser leurs ressources. Et donc, le focus qu'ils peuvent avoir sur une campagne donnée pour l'optimiser en permanence, c'est quelque chose qu'on a vu décroître avec le temps. Je l'ai vu des deux côtés de la barrière et donc c'est quelque chose que je ne voulais pas assumer du côté de Dieteren et où j'étais persuadé qu'en internalisant ces métiers sur le digital, on allait être plus efficace, plus rapide et plus réactif. Nous sommes 2 ans après le lancement de cette initiative. Moi, j'ai pris cette initiative à mon arrivée chez Dieteren et on a mis une petite année pour la mettre en place. Le résultat est très probant. Nous avons des équipes très compétente, motivée, capable de gérer les campagnes pratiquement en temps réel et avec un œil en permanence sur celle-ci, tout en utilisant et exploitant, entre guillemets, les ressources et les capacités de l'agence de manière tout à fait en complémentarité. Mais le fait d'avoir une agence, entre guillemets, ou des compétences en interne est vraiment un must aujourd'hui, surtout à l'heure de la digitalisation de l'écosystème.
C'est ça que j'allais dire. En t'entendant, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup au niveau du speed, enfin de la rapidité et de l'agilité que ça a apporté des bénéfices.
Alors, il y a 2 éléments. Effectivement, l'agilité, le speed, la réactivité, mais aussi un élément qui est très, très difficilement transposable dans l'agence, c'est la connaissance interne des produits services. Nous avons un écosystème quand même compliqué. On n'est pas monoproduit. On a d'abord, rien que sur l'automotive, on a déjà au moins 6 marques que nous représentons et il y en a plus que nous distribuons. Et donc, ça veut dire être conscient et connaître les objectifs stratégiques de ces marques, comment elles se positionnent, quelles sont les interactions aussi internes avec un certain nombre de stakeholders. Donc ça, évidemment, quand vous l'avez Au sein de l'entreprise, c'est un
in-house,
énorme plus.
In-house, okay. Je comprends. Parlons un petit peu de transition écologique.
Donc,
l'industrie automobile par excellence, évidemment que la transition écologique est un gros facteur de défi. Comment est-ce que tu l'abordes, toi, dans ton département marketing?
Alors, c'est très haut sur notre agenda. D'abord, nous avons, au sein d'Iteron, modifié notre mission statement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus un vendeur de voitures. Nous sommes vraiment perçus, on le voit auprès de nos clients, mais aussi auprès de nos stakeholders et des gens qui nous regardent, comme un pourvoyeur de solutions de mobilité. Donc, notre mission, c'est « Building a seamless and fluent mobility for every citizen in Belgium ». C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, le centrage sur la Belgique, on est une entreprise belge au départ.
Évidemment.
Même si le groupe d'Iteron s'est largement diversifié, est aujourd'hui un groupe international de renom très efficace avec Belron et d'autres activités internationales. L'activité d'Iteron Automotive, elle est belge, belgo-belge. On a une petite exception, c'est qu'on a commercialisé depuis quelques mois maintenant la petite Microlino sur le marché français, mais cette exception ne fait que confirmer la règle. Et donc, par rapport à notre métier et à notre notion sur la durabilité et l'environnement, il y a un chiffre très simple à retenir. Les émissions carbonées en Belgique sont à 21% causées par le transport. Mmh. Et dans ces 21%, il y a 12% qui proviennent directement du transport individuel. Mmh. Le solde des 9%, c'est le transport professionnel, les camions, les bus, etc. Ça veut dire que, étant leader du marché, nous devons être une partie de la solution. Alors, c'est quoi la solution? C'est très complexe parce qu'on décrit les véhicules électriques, on parle de greenwashing, etc. Mais nous avons une conviction qui est basée sur la science. D'abord, nous sommes membres de la BACA, qui est la Belgian Association for Climate Action,
oui,
dont l'objectif, et nous, c'est inscrit dans notre plan à long terme. L'avantage d'une société familiale aussi, c'est de pouvoir avoir le temps long.
Oui.
Mais il y a aussi une urgence. Donc, nous allons réduire nos émissions carbonées d'ici 2025 de 50%. Et d'ici 2050, notre ambition est d'être zéro emissions, de manière à pouvoir jouer un rôle important sur ces émissions carbonées. Et pour y arriver, aujourd'hui, on a un levier très intéressant qui est le véhicule électrique. Et la science, elle nous dit simplement qu'un véhicule électrique, oui, émet plus de CO2 au moment de sa production, mais permet, sur la durée de vie d'utilisation du produit, de réduire au minimum de 50% les émissions carbonées. Donc, si on veut agir là tout de suite, chaque véhicule électrique qu'on place sur le territoire belge, sur les routes belges, c'est des émissions carbonées en moins. Et donc, nous, c'est notre credo et on travaille pour ça. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui leader de marché dans l'électrique puisque 32% des véhicules électriques vendus en 2023 sur le marché belge étaient commercialisés par D'Iteron. Derrière nous, le numéro 2, c'est une marque américaine bien connue qui était à 17%. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. Ils le font avec une marque, on le fait avec 6 marques.
Oui.
Mais nous avons aussi, à travers ces 6 marques, des produits et services différents qui permettent de répondre de manière plus large aux besoins des clients.
Tout au long de ta carrière, tu as pu goûter, comme on le disait en introduction, à différents postes dans plusieurs secteurs. Finalement, comment est-ce que cette expérience te renforce aujourd'hui dans tes fonctions actuelles et avec les défis que tu nous as partagés?
Alors, un des éléments qui, pour moi, est important, c'est que ma carrière, qui a été effectivement relativement polyvalente en termes de secteurs, m'a permis de construire un réseau d'abord très dense dans différents secteurs qui me permet effectivement de toujours avoir éventuellement quelqu'un à contacter pour trouver une solution à un problème qu'on pourrait avoir.
On revient sur la notion d'écosystème que tu partageais un peu plus tôt.
Et de collaboration qui me tient vraiment énormément à cœur. Je retiens de ma longue période dans les agences un élément important, c'est qu'en agence, on réfléchit stratégiquement, on opérationnalise aussi, mais on a une culture d'entreprise qui est extrêmement orientée vers la collaboration, puisque le rôle d'une agence, c'est d'être en partenariat avec ses clients. Et cet élément de culture a guidé un petit peu mon style de leadership auprès de mes équipes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye dans mon rôle aujourd'hui de développer au sein d'Iteron. Iteron, société belge, 219 ans là, cette année-ci d'existence, très traditionnelle, très hiérarchisée, société familiale aussi, donc avec une culture d'entreprise très saine dans les valeurs, mais dans l'organisation quand même très top-bottom. Avec les défis qu'on a aujourd'hui, le top-bottom ne suffit plus. Il faut aussi permettre du bottom-up, de la transversalité. Et donc ça, c'est ce que j'essaye d'insuffler auprès de mes collègues. C'est cette notion de collaboration et de partenariat.
Comme tu le sais, chez BAM, on a développé notre Meaningful Marketing Framework. Ce sont des principes qui nous guident vers un marketing qui fait plus de sens pour la société et la planète. C'est pourquoi nous continuons chaque épisode de ce podcast avec quelques questions stimulantes qui touchent au Meaningful Marketing. Prêt, José ?
Sur les starting blocks, allons-y.
Donc, en termes de Meaningful Marketing, qu'est-ce que tu veux faire de différent ou de mieux en 2024 ?
Alors, on a déjà abordé dans la première partie du podcast les éléments de durabilité et de sustainability qui sont vraiment extrêmement importants, non seulement à mes yeux, mais aux yeux évidemment de mes collaborateurs et de notre direction chez Literun. Il y a un deuxième élément qui me tient à moi personnellement à cœur, mais qui est aussi au centre de notre stratégie, c'est tout ce qui touche à la diversité et l'inclusion. Je suis moi-même issu d'une certaine forme de diversité puisque je suis d'origine étrangère. Hein. Mon nom est assez reconnaissable. J'ai des origines espagnoles. Aujourd'hui, on doit vraiment... les entreprises ont un rôle majeur sur ce niveau-là. On doit absolument permettre à toutes les composantes de la société belge de pouvoir s'épanouir correctement dans un travail, dans une fonction, dans un rôle qui leur permet de créer de la valeur. En particulier dans le marketing et la communication, mon expérience, notamment du côté des agences, où effectivement il y a un gros travail de diversification qui a été fait et qui est probablement en avance par rapport à d'autres secteurs.
Toujours un peu, hein, les
voilà,
agences.
Voilà, oui, tout à fait. Il faut le rappeler, ils font du bon boulot de ce côté-là. C'est que la richesse créative, la manière de regarder les problèmes, d'y apporter des solutions, c'est beaucoup plus intéressant quand on a en face de soi des gens issus de différentes origines, de différents genres, qui ont des parcours de vie différents. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je sais que la BAM a fait énormément également pour amener au sein du marketing ces éléments de diversification et d'inclusion. Et d'égalité aussi, parce que ça joue aussi.
Ça joue aussi.
Voilà.
Alors, de qui ou de quoi les spécialistes du marketing peuvent-ils s'inspirer pour, on va dire, être encore plus meaningful, d'après toi ?
Alors moi, je pense aujourd'hui, mais ils le font déjà en partie, mais il y a un monde qui est le monde artistique, qui aujourd'hui est à la pointe. Je parlais tout à l'heure, en début de podcast, de l'importance du marketing comme vecteur d'impact sur la culture populaire. Bah, oui. S'il y a bien quelque chose qui impacte la culture populaire aujourd'hui, c'est le monde artistique, que ce soit le cinéma, la musique ou d'autres éléments. Beaucoup de marketeurs utilisent déjà ces leviers-là, mais il y a des éléments un peu plus profonds derrière les prises de position de certains artistes qui devraient permettre aux marketeurs d'enrichir leur vue sur la société. Quel monde on veut construire aujourd'hui aussi ? C'est un élément qui m'interpelle particulièrement parce qu'on est en train de vivre une période très, très compliquée. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a les tensions internationales un peu partout, il y a le conflit au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Donc, on est devant... on traverse une période compliquée. Et cette période compliquée, j'espère qu'on va en sortir vers le haut et pas vers le bas.
Ouais, plus fort,
Or,
en fait.
Quand on voit la montée des populismes, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, on peut s'inquiéter, en Belgique aussi, très honnêtement. On est en année d'élection,
année
donc on n'est pas là pour
oui.
faire de la politique. Mmh. Mais 2024, on voit quand même la pauvreté du débat politique. Moi, je suis affligé, je suis un suiveur de l'actualité politique depuis longtemps. J'ai même une petite activité politique il y a plusieurs années. Mais c'est affligeant de se dire qu'on est dirigé par des gens qui sont dans l'invective, dans le clivage. Et je pense qu'on ne va pas dans le bon sens. Donc, les marketeurs ne doivent pas s'inspirer de nos politiques. Ça devrait plutôt être l'inverse. Je pense que là-dessus,
les marketeurs devraient inspirer le politique,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, oui, oui. Et avec les bons éléments, parce que le politicien retient aujourd'hui surtout du marketing l'importance des réseaux sociaux et comment ces réseaux clivent en fait les discours. Et donc, je pense que là, il y a un vrai danger de stigmatisation et de clivage de la société. On le voit de plus en plus. C'est quelque chose qui me touche, mais aussi sur lequel je pense que les marques ont un rôle de réassurance vis-à-vis du citoyen et des citoyennes. Ils sont sans doute beaucoup plus enclins, nos citoyens, à faire confiance aux marques qu'ils utilisent tous les jours dans leur vie quotidienne que à ce qu'on peut leur raconter au niveau politique. Et peut-être que là, il y a un jeu ou un terrain de jeu pour le marketing, des prises de position un peu plus fortes. C'est risqué, c'est clivant. On l'a vu aux États-Unis, certaines marques qui ont pris des positions sociétales très fortes et qui l'ont parfois payé, parfois pas du tout. Ça a été très, très bénéfique. Hein. Si on parle de Nike ou d'autres, on voit qu'il y a eu quand même quelques éléments. Mais je pense que les marques doivent vivre dans la culture populaire. Et donc voilà, nous, sur l'enjeu environnemental, il est clair qu'avec nos marques de voitures, on veut impacter la population et leur dire le véhicule électrique n'est pas quelque chose qui va nuire à la société. Il y a trop de voitures, on va probablement devoir diminuer la pression des voitures, mais c'est pour ça aussi qu'on s'est diversifié, on a lancé des vélos, on est dans le véhicule partagé, on est dans toute une série de nouvelles formes de mobilité pour accompagner les besoins du consommateur belge.
Alors, éloignons-nous un peu du monde politique, revenons aux outils marketing. Là, je voulais être très concrète sur... Est-ce que tu peux nous révéler un peu ton outil marketing secret ? Évidemment, il sera plus secret après ce podcast.
Alors, c'est pas un grand secret, mais je pense que nous devons être plusieurs dans la communauté marketing à avoir commencé à utiliser de manière extrêmement régulière ChatGPT pour toute une série de choses. Comme je le disais en début de podcast, moi, je suis un peu un geek. Hein. J'ai mon premier ordinateur, j'avais 13 ans, donc j'ai toujours suivi la technologie de très près. Mais j'ai suivi l'évolution de ChatGPT avec curiosité et intérêt au début, mais je suis passé au stade utilisateur depuis de nombreux mois maintenant, et ça me simplifie la vie sur pas mal de choses. Voilà, on est en train de regarder également comment les AI génératifs pourraient avoir un impact sur les éléments de production créative, notamment des assets digitaux chez nous. Donc, si je devais citer un outil en 2024 qui va probablement être très important dans mon day-to-day, ça serait ça, le rôle de l'intelligence artificielle. Je discutais avec notre CTO juste avant le podcast ici. On va développer au sein des outils Microsoft, on va déployer une solution qui s'appelle Copilot, oui, qui est la solution d'intelligence artificielle de Microsoft intégrée à la suite Office. Et donc, faciliter la gestion des agendas, rechercher des informations dans les emails, etc. Voilà. Et donc, ça serait ça, mon outil secret pour cette année. En 2025, on se reparlera et on aura peut-être un autre.
On va suivre ça avec attention alors. Dernière question sur la partie toujours inspiration. Comment est-ce que toi, en tant que personne, en tant que leader, tu essayes d'être une source d'inspiration pour tes équipes, pour tes collaborateurs chez Dieterun ou même en dehors de Dieterun, hein?
Alors ça, c'est une question compliquée parce qu'il faudrait la poser à ceux qui se sentent inspirés, s'il y en a. Allô ? Ben, y a deux éléments qui, pour moi, me tiennent à cœur. C'est que j'aime beaucoup partager. Donc, on parlait du fait que j'ai eu l'occasion d'enseigner à un moment donné et c'est un élément qui m'a... Et j'y retournerai certainement, parce que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Cette notion de partage, j'essaye de la pratiquer au quotidien auprès de mes équipes. Donc, je suis très communicant sur toute une série de choses. Je pense que ça leur permet de comprendre en permanence quelle est la vision, quelle est la stratégie. C'est vraiment un élément pour moi important. C'est effectivement aussi de participer à l'écosystème via ce podcast ou d'autres éléments. Voilà, je suis impliqué dans pas mal d'associations au niveau professionnel du marketing en Belgique et je m'en réjouis parce que c'est aussi une source d'inspiration pour moi, évidemment, de voir ce que font nos collègues, de voir ce que font les spécialistes de la communication et du marketing, de participer à différentes instances. Donc, c'est par ce biais-là que j'essaye d'être inspirant.
Très bien. Alors, pour conclure ce podcast et un peu pour reprendre comme une devise écrite sur un mug de café que nous buvons ensemble ce matin, tu as dit « Un vrai leader n'a pas seulement une fonction de guide, mais aussi une fonction de soutien. » Pourquoi c'est si important pour toi ?
Parce que je pense qu'effectivement, on estime trop que les gens sont capables de se fixer des caps, des objectifs. On est quand même dans une culture de la performance aujourd'hui. Et que pour pouvoir le faire, il faut qu'on sache dans quelle pièce on joue. et que cette pièce, justement, elle est devenue très complexe aujourd'hui, entre les éléments technologiques, les éléments de vision stratégique, les nombreuses interactions que l'on a, la gestion des agendas, etc. Je pense qu'il est important d'apporter du support. Dans un de mes jobs précédents, j'avais vu un organigramme que nous avait donné notre CEO, et en fait, l'organigramme classique... C'est cette pyramide du haut vers le bas. Et en fait, lui, s'était mis en dessous. Donc, il disait, voilà, ça, c'est l'organisation. Et moi, je suis avec mes équipes en dessous. Je soutiens l'organisation. C'est un truc qui m'avait beaucoup parlé, que j'ai réutilisé d'ailleurs, parce que je pense que cette notion de guidant, il faut montrer le chemin, mais il faut pousser les gens à aller dans le bon sens. Et ça, c'est voilà, on peut marcher tout seul en avant. On peut être une locomotive extraordinaire. J'utilise cette image souvent, attention à ne pas être la locomotive qui n'a plus de wagon, parce que tu ne transportes personne finalement. Et donc là, c'est effectivement une image qui me parle assez fort.
Merci d'avoir été une source d'inspiration et d'avoir partagé toutes tes idées, José. Et félicitations encore pour ton prix de leader marketing de l'année.
Et merci à la BAM d'avoir organisé tout ça avec les autres associations. J'en suis très fier. Ça trône sur ma cheminée. Et merci Fleur pour l'invitation au podcast.
En guise de petit cadeau, ce mug BAM, comme ça, quand tu boiras ton café au bureau ou à la maison, tu repenseras à ce podcast que nous avons partagé.
Un tout grand merci et je le ferai certainement dès cet après-midi.
Votre entreprise adopte une démarche marketing innovante ? Dans ce cas, n'oubliez pas de vous inscrire à temps pour les Belgium Marketing Awards 2024. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin juin sur belgiummarketingawards.be et rendez-vous à notre prochain Marketing Coffee Talk.